Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse au premier chapitre. Apocalypse 1, 7 à 18.
Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez, il y a une idée générale selon laquelle l'Apocalypse, c'est un livre qui fait peur. Et ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que le livre d'Apocalypse a été donné à Jean pour fortifier les chrétiens. Ça n'a pas été donné pour faire peur. Ça a été donné pour dire aux chrétiens, la délivrance est proche, voilà la suite des événements. Donc préparez-vous. Au contraire, c'est un livre de consolation. C'est ce dont nous voulons parler. Nous voulons parler de Jésus qui va venir. Et comme c'est écrit au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, tout le monde le verra, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Donc la personne qui écrit dit oui, amen, parce que cette personne-là est contente de la venue du Seigneur. C'est un livre qui étale les calamités, les catastrophes à venir, mais ce ne sont pas des catastrophes pour les élus de Dieu. C'est ce qui va se passer sur toutes les personnes qui renient le Seigneur. Au contraire, pour un chrétien, le livre d'Apocalypse, comme lui-même il le dit au verset, à partir du premier verset, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu de Jésus-Christ, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est écrit « heureux ». Normalement, le livre d'Apocalypse doit encourager les chrétiens à se dire « mais tiens, voilà les événements qui vont avoir lieu et desquels nous serons préservés. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Car le temps est proche. Voilà, notre thème c'est « voici, il vient avec les nuées ». Jésus-Christ viendra avec les nuées. Ces nuées-là, ce sont des multitudes d'anges. Ils sont tellement nombreux que ça forme comme des nuages. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. C'est un message de consolation pour les chrétiens, mais c'est aussi un message d'avertissement pour les autres. Voilà, c'est un message d'avertissement pour ceux qui hésitent encore à se donner au Seigneur. C'est un message d'avertissement pour ceux qui s'accrochent à la terre. C'est un message d'avertissement pour dire le temps est proche. Jésus-Christ va revenir bientôt. C'est du sérieux. Et nous lisons ce passage pour consoler tous ceux qui se sentent comme les derniers, tous ceux qui ont l'impression que le mal a pris le dessus sur tout. Et Jésus, ce livre dit, Jésus vient avec les nuées et les gens qui font succès aujourd'hui, ils se lamenteront. Ils diront, mais pourquoi nous n'avions pas cru? Mais ça sera trop tard. Il est écrit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc tout le monde le verra, même les gens qui l'ont percé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens reconnaîtront que c'est le Seigneur. Pour qu'ils reconnaissent que c'est le Seigneur, ça veut dire qu'un jour dans leur vie, ils ont eu une forme de rencontre avec lui, mais à cause de l'esprit grégaire, de la logique de groupe, ils ne l'ont pas suivi. Beaucoup ratent le salut à cause de la logique du groupe, la logique de la culture d'origine, de la famille d'origine, la logique de la masse. Ils sont dans l'erreur, ils rencontrent le Seigneur, mais comme ils sont dans un grand groupe, qui semblent réussir dans le faux, ils vont s'y attacher toujours. Et ces tribus-là, tous ces grands groupes, toutes ces familles regretteront et diront « Mais pourquoi j'ai suivi mon cousin ?» Les gens diront « Mais pourquoi j'ai suivi mon cousin ? Pourquoi j'ai suivi ma sœur ? J'aurais dû prendre ma décision personnelle. » Parce que là, on dit les tribus, on ne dit pas les individus. Ce sera des groupes. La perdition se fait en général par groupe, alors que le salut s'obtient personnellement, individuellement. C'est ça la réalité. Souvent la perdition c'est dans le groupe. Et c'est écrit, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens prennent ce chemin-là. C'est souvent en groupe que les gens se perdent. Mais quand il s'agit du salut, moi quand j'ai été touché, les gens n'ont pas su. Les lumières étaient éteintes. Je regardais ce film où cet homme donnait sa vie pour les lépreux. J'ai pleuré. Et quand les lumières se sont allumées, j'avais déjà essuyé mes larmes. Les gens ne savaient pas ce qui s'est passé dans ma vie. Et 20 ans plus tard, ils vont apprendre que je suis devenu pasteur. Ils se disent, mais comment ça s'est passé? Ça s'est passé devant eux. Au moment où j'étais l'un des plus voyous de mon école, c'est là que ça s'est passé. Mais les gens n'ont pas su. Voilà. C'est pour dire que le salut, ça se fait seul. Ça s'obtient seul. Mais la perdition, ça va en groupe. C'est pourquoi c'est écrit, les tribus, les groupes de la terre vont se lamenter. Les gens qui se sont attachés à un groupe pour se perdre, pour résister à Christ, ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Voilà, il vient dans les nuées, c'est un message pour dire aux chrétiens, ne vous inquiétez pas, votre victoire, vous la vivrez. Vous la vivrez. Ce n'est pas facile pour des gens comme les vrais chrétiens. Je raconte ma propre expérience. Ce n'est pas facile de voir tout le tralala qui se fait avec la flamme olympique. Donc quand je vois ça, cérémonie dans une ville de Grèce pour une flamme, après ça va être amené dans un bateau, donc on choisit des gens qui vont faire traverser cette flamme de ville en ville. Il y a même un athlète au Havre, un Havre qui a dit, mais moi j'ai une médaille d'argent de Jeux Olympiques, on ne m'a même pas choisi pour porter la flamme olympique. C'est même un article d'un journal. Alors je dis, mais pour une flamme qu'on peut souffler avec la bouche et éteindre, il y a tout ce mécanisme-là, ça va prendre le bateau, il y aura quelques gardiens pour garder la flamme, ensuite ça va parcourir la France. Quand on voit tout ça, on dit, mais comment ils peuvent négliger le Seigneur et honorer, adorer une flamme? Où la plupart, cette manifestation, la plupart des gens seront dopés, donc seront dans le mensonge carrément. Je suis jaloux de tout ça. Je dis, mais c'est le Seigneur qui doit être honoré, c'est pas ces trucs-là. Et c'est pour nous, les gens qui sommes tristes en voyant tout ça, que ce texte est donné, voici je viens avec les nuées. Donc votre honte cessera un jour. Votre Seigneur régnera, clairement. Il viendra dans les nuées, c'est-à-dire que tout œil le verra, même les opposants, tout le monde verra. Ça ne sera plus en cachette, comme il s'est passé autrefois quand il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il n'est pas apparu aux païens. Il n'est apparu qu'à ses gens en lui, à ses disciples. Mais cette fois, ça sera clair. C'est écrit, tout œil le verra. Le règne du Seigneur sera clair. Et c'est pour bientôt, il dit, le temps est proche. Le temps est proche. Et s'il n'a pas fait ça la première fois, paraître clairement dans sa résurrection, parce qu'il voulait que les gens croient par la foi et non par la vue. Quand il va revenir la deuxième fois, il n'y a plus de croire par la vue. On verra. Tout le monde verra. Au ciel, on ne croira pas. On verra. C'est maintenant qu'on croit pour faire la sélection. Les orgueilleux n'acceptent pas de croire. Ils exigent de voir. Ils exigent la démonstration. Du coup, Dieu a établi que le salut se fasse par la foi pour faire la sélection. Que ce soit les gens simples qui, à partir de certains détails clairs, ils comprennent à qui ils ont affaire et ils croient, ils suivent. Les orgueilleux vont toujours polémiquer, exiger ceci, cela, et ils ne vont pas prendre le salut. C'est fait exprès. Le salut s'obtient par la foi. Parce qu'autrefois, Adam vivait dans la vue, par la vue, et il a échoué. Maintenant, Dieu a choisi de solidifier le salut par la foi. Donc on croit et on est sauvé à partir des éléments clairs qui sont donnés, mais qui ne sont pas du genre à briller, à épater tout le temps. Donc Jésus, quand il naît dans une étable, mais il y a une étoile qui bouge. Il y a un mélange de meekness, comme on dit en anglais, de majesty. Donc un mélange de majesté, de gloire, puisque toute une étoile bouge, mais en même temps, il est dans une humilité totale en naissant dans une étable. Et même que l'étoile bouge, ce n'est pas tout le monde qui voit que l'étoile bouge pour lui. C'est quelques personnes. Et les autres, on leur raconte. Maintenant, à chacun, en fonction de ce qu'on t'a raconté, par les bergers, par ceux qui ont vu l'étoile, pour comprendre à qui tu as affaire, même s'il est dans une étable. Donc si tu veux qu'à chaque fois, chaque jour, il brille de mille feux pour croire qu'il est Dieu, tu as tapé à côté, tu veux le ramener au temps d'Adam qui a chuté malgré le fait qu'il voyait la gloire de Dieu. Dieu a choisi que les gens croient par la foi. C'est pourquoi quand il est ressuscité, Jésus, il n'a pas fait d'apparition claire auprès du public parce qu'il fallait que les gens croient en lui par rapport à ses paroles, par rapport à la cohérence entre ce qu'il a dit et l'Ancien Testament et non pas par rapport aux exploits. Il a dit à son propre disciple qui voulait le voir, il a dit, Thomas, regarde mes mains, c'est bien moi, mais mon ami, heureux les gens qui croient sans avoir vu. je te fais cette grâce de me voir, mais ce n'est pas ça le système actuel. Le système actuel, c'est qu'il faut que vous croyiez sans avoir vu. Et le frère Pierre nous dit dans son épître, vous êtes heureux, vous qui croyez en lui sans l'avoir vu. Nous, on pense que Pierre était favorisé. Pierre nous trouve favorisés. Parce que Pierre dit, pour nous, ça a été facile, nous l'avons vu. Mais vous, vous ne le voyez pas. Vous croyez en lui comme si vous l'avez vu. Vous avez une foi comparable à la nôtre alors que nous, on l'a vu. Il dit, vous nous êtes supérieurs. Il dit, vous êtes bienheureux, vous qui croyez en lui sans l'avoir vu. Vous avez une vraie foi solide. Nous, nous l'avons vu, nous n'avons aucune justification. Mais vous, vous n'avez pas vu Jésus. Mais vous tenez dans les épreuves. Vous vous laissez tuer, vous vous laissez maltraiter. Les familles divisées à cause de la persécution. Mais alors que vous ne l'avez pas vu, Pierre disait, mais vraiment, vous êtes bienheureux. Et c'est ça qui explique les contradictions apparentes, les paradoxes que nous pouvons vivre, où d'un côté, nous avons des signes clairs de la gloire de Dieu, et de l'autre côté, il y a une vie qui semble une vie de perdant dans ce monde, où nous sommes rejetés, nous ne sommes pas crus, nous sommes considérés comme des fous par rapport à notre foi. Et donc, il y a cette ambivalence-là qui fait que seuls les gens simples, seuls les gens qui veulent être sauvés par la foi vont rester. Les autres qui veulent le bling-bling finissent par l'évangile de prospérité qui promet le bling-bling. Voilà. Donc nous sommes là dans un temps, dans un texte de consolation. Il dit, il vient dans les nuées. Soyons prêts à l'accueillir. Ne continuons plus à pleurer. Comme je vous le dis, mon cas, quand j'ai vu cette histoire de la flamme olympique, quand je vois tout ce qui est fait autour des Jeux olympiques, ça m'a vraiment fait très très mal. Et je me dis, mais et le Seigneur dans tout ça, les gens sont fous. Mais il nous dit, tranquillisez-vous. Votre victoire sera éclatante bientôt. Je viendrai dans les nuées. Voilà, le Seigneur vient dans les nuées. Préparons-nous, nous lisons dans Luc 17, 20, 24. Luc 17, 20, 24.
Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour.
Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ça sera très clair. Son apparition, comme on a lu dans Apocalypse, chapitre 1er, ça s'étendra sur la terre entière, tout le monde le verra. C'est confirmé là. Il dit, ne vous laissez pas impressionner par des bruits sur mon retour, sur ma présence dans un endroit. Car lorsque je reviendrai, ça sera visible pour tout le monde. C'est écrit là, comme on vient de lire. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Si on nous dit que Jésus est venu dans tel endroit et il faut que nous nous déplacions, c'est du mensonge. C'est écrit que ça se remplira tout le ciel. Sa venue sera visible par tous. Et qu'est-ce qui est dit là? C'est dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Pour l'instant, voilà ce que Jésus leur dit. Jésus dit le système actuel du royaume de Dieu, c'est la discrétion sans renier l'efficacité. Voilà. Quand nous disons discrétion, nous ne voulons pas dire que le royaume de Dieu n'est pas puissant. Il est puissant, mais pour le moment, il est discret. Et il est demandé aux chrétiens de d'intégrer cette notion-là, à moi le premier, parce que quand on souffre comme ça, moi, j'aurais bien aimé voir Jésus se manifester clairement dans un endroit et que de foule suive, quoi, pour concurrencer les Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il dit pour le moment, c'est discret. Mais ça ne réunit pas la puissance et l'efficacité. Donc quand le Seigneur nous appelle à la simplicité, à la discrétion, ce n'est pas le manque d'efficacité. Lui-même, quand il guérissait quelqu'un, parfois, il chassait un démon, il disait, ne dites à personne. Parce que nous ne sommes pas encore dans le temps d'un règne éclatant du Seigneur. Nous sommes dans le temps d'un règne puissant, mais discret, tranquille, pour éviter le suivisme faux. Des gens qui vont suivre, mais qui suivent l'ambiance, l'atmosphère, qui suivent la réussite. Et effectivement, si aujourd'hui Jésus donnait $1 million à quiconque croyait, qui ne va pas se convertir? Qui ne va pas se convertir? Donc ceux-là qui veulent d'un Jésus qui fasse un miracle visible tous les jours, ben, c'est des gens qui suivraient Satan s'il faisait la même chose. Nous devons suivre Jésus parce qu'il est la vérité. Mais ça ne change pas le fait qu'il peut faire des miracles. Et il en fait d'ailleurs. Mais sauf que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est lui-même. C'est lui que nous devons suivre. Maintenant, si nous pensons suivre un capitaine de football qui va nous faire gagner les matchs, il dit, ah non, le royaume de Dieu, il est discret pour le moment. Il ne vient pas de manière à dominer par la vue. Voilà. Il domine actuellement en esprit, mais pas par la vue. Mais il vient un jour, c'est ça notre consolation, où il dominera par la vue. Notre honte sera lavée. Parce que certains se moquent de nous en disant, mais où est votre Jésus? Il a été crucifié. Mais notre honte ce jour-là sera lavée parce que c'est écrit, il viendra dans les nuées, avec les nuées. Ça sera visible par tous, même par ceux qui l'ont percé, même par ceux qui l'ont critiqué, même par ceux qui l'ont moqué. Ils verront la gloire de Dieu. Et nous aurons une fois pour toutes la tête haute et elle ne baissera plus. Jésus revient. C'est cela. Notre confiance, notre force. Un peu de patience. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Nous devons accepter que le Saint-Esprit touche discrètement les personnes. Je répète encore, ça ne veut pas dire que de temps à autre, il n'y a pas des faits brûlants. Non, ça ne veut pas dire ça. Quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, ça a été éclatant. Mais regardez, dans la suite, ben, on ne le considérait pas trop parce qu'il n'avait pas un char en or, il n'avait pas de garde du corps, il n'avait pas une armée. Et vous avez vu même dans une histoire où des gens, alors qu'on avait guéri leur enfant qui était aveugle, mais ils ont eu honte de dire clairement que c'était Jésus. Vous voyez que malgré la puissance de Jésus, les autres ayant la puissance militaire et la puissance sociale, il y avait quand même une sorte de victoire humaine sur Jésus. Parce que les gens préféraient suivre les pharisiens, parce que s'ils ne suivaient pas les pharisiens, ils étaient exclus socialement, même s'ils avaient vu la gloire de Jésus clairement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens autour de nous, même quand ils voient la gloire du Seigneur clairement, à cause des tribus, à cause des groupes, ils préfèrent encore rester dans l'erreur, dans la perdition. Et nous devons accepter cette discrétion du royaume de Dieu sans renier sa puissance, sans renier sa force. Le royaume de Dieu est fort, mais il est discret pour le moment. Il ne vient pas de manière à frapper le regard. Ne soyons pas déstabilisés par cela. Fonctionnons. Nous allons donner des préconisations à la fin, mais Je préfère le dire, puisque tout peut arriver, on peut peut-être pas arriver à la fin, donc je préfère le dire. C'est que ce qui compte, c'est que le royaume de Dieu règne chez toi-même, hein, mon ami. Si tu veux que d'un Jésus éclatant, qu'il le soit chez toi, tu veux juste que Jésus règne sur la ville de Rouen, sur la ville de New Delhi, de New York, mais il faut qu'il commence par toi. Déjà, s'il règne chez toi, c'est glorieux. Et il a conquis un territoire que tu es. C'est ça, les préconisations. Inquiète-toi d'abord de toi-même. Est-ce que Jésus règne à 100%? Voilà, c'est ça qui compte. Nous verrons, s'il règne chez toi, il brillera chez les autres. Voilà, il touchera New York. Mais d'abord, il veut d'abord toi. Voilà, c'est ça quoi. Nous continuons la lecture dans Luc 21, 20 à 30.
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont tous et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche.
Amen. Vous savez de vous-même que l'été est proche. Là, Jésus nous rappelle les signes de la fin de temps. Alors, ce qu'on vient de lire, c'est déjà accompli en première partie. J'ai l'habitude de le dire, que les prophéties de la Bible s'accomplissent parfois 3 ou 4 fois, 2 fois. Voilà. Rares sont celles qui sont prédites pour une seule fois. Voilà. C'est Ecclésiaste qui nous dit il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui se produit une fois, c'est déjà produit autrefois. Et cette prophétie sur le fait que Jérusalem soit entourée des armées étrangères s'est accomplie du temps des Romains à l'an 70. Le temple a été détruit. Le général Titus qui a environné Jérusalem a fini par la vaincre et a détruit le temple. Voilà, à l'an 70 après Jésus-Christ, et les Juifs ont été dispersés. Et il y a eu encore une autre destruction en l'an 130 du temps de l'empereur Adrien romain. Lui, il a carrément rasé la ville. Il a même changé le nom de la ville. Il lui a donné le nom de Ilia Capitolina. Voilà, donc ces prophéties-là se sont déjà accomplies. Mais il y a un dernier accomplissement qui s'annonce. Je pense que vous entendez de vous-même la haine contre le peuple d'Israël qui ne fait qu'augmenter. Alors, quand nous disons ça, nous ne défendons pas ce que fait Israël à Gaza. Nous ne défendons pas ce que fait M. Netanyahou pour se maintenir au pouvoir. Nous disons les choses bibliques. La Bible prédit que les nations haïront tellement Israël qu'elles vont environner Israël pour le détruire. Voilà, nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Nous parlons spirituellement. Voilà. Et ce temps arrive. Ce temps arrive. Nous avons vu l'assaut des Iraniens avec les drones. Et de plus en plus, des nations disent clairement soutenir le Hamas, soutenir les Palestiniens dans leur lutte contre Israël. Et les États-Unis ne seront pas toujours un allié indéfectible. Ça peut changer. Et le jour où ça changera, oui, nous pouvons vivre ce qui est écrit là, dans cette prophétie, les nations vont entourer Israël. Mais c'est bientôt, puisque nous voyons déjà même les États-Unis parfois ne pas suivre Israël dans certaines choses. Et là, nous sommes proches de cela. Le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, comprenez que nous sommes à la fin. Le climat, parce que c'est dit aussi, les mouvements climatiques, c'est dit aussi. Nous ne parlons pas du réchauffement climatique, mais des mouvements climatiques, des catastrophes naturelles. C'est prédit ici, tremblements de terre et autres. Ce n'est pas juste le climat, c'est les mouvements de la nature s'accélèrent. Les tempêtes du soleil, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel, mais tout le monde ne suit pas toujours, parce que tout le monde n'est pas abonné à certains sites qui relatent ces choses-là. Voilà. Mais il y a des choses qui se passent au niveau astronomique, il y a des choses qui se passent au niveau climatique, il y a des choses qui se passent au niveau géologique, avec les tremblements de terre, éruptions volcaniques et autres. Mais tout le monde ne sait pas qu'actuellement, il y a un Indonésien, un volcan qui est en éruption. Donc du coup, tout le monde ne suit pas. Donc nous sommes là pour être comme un relais, pour vous raconter ce qui se passe aussi dans le monde. Et ce qui est dit dans cette prophétie est en train de s'accomplir. Nous sommes proches. Mais je veux attirer notre attention, un, sur le fait que c'est proche, pour dire une fois de plus à ceux qui traînent, ne continuez pas à traîner, à donner votre vie à Jésus. Il est écrit, quand les gens le verront, ils se lamenteront. Ils diront, mais pourquoi on n'a pas cru à temps? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ce que nous racontons peut se faire en accéléré. Quand la mesure a été prise, que nous ne sortions pas de chez nous, ça a été en accéléré. Parce que la semaine qui précédait, Macron était passé à la télé pour dire que les gens peuvent sortir. Nous ne ferons jamais comme la Chine. Mais aux infos, on nous adressait le nombre de morts et puis paf, on décide, le 12, je crois, c'était un 12, eh bien, plus personne ne sort. Les choses peuvent aller très, très vite. Vous savez, pour ceux qui ne suivent pas, bientôt, la France risque de relancer le service militaire. La France est en train d'augmenter son budget en armement. L'Allemagne, pareil, là, ils viennent de s'entendre pour faire un char de combat commun. Donc, les guerres dont il est question ici sont en train de venir. Mais il dit, ce ne sera pas encore la fin, mais toutefois, comprenez que c'est proche. Ça, c'est le premier élément à retirer de ça. Le deuxième, c'est ce dont on a parlé précédemment. Il dit que votre délivrance est proche. Pourquoi il dit, quand vous verrez ces choses, comprenez que votre délivrance est proche. On délivre qui? Quelqu'un qui est en difficulté. Quelqu'un qui est en difficulté. On ne délivre pas quelqu'un qui est dans le succès, qui remplit les stades. Ce n'est pas une délivrance, là. C'est quelqu'un qui est en difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Notre vie sur terre, en tant que chrétien, n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie de succès humain. Puisque sinon, en quoi c'est une délivrance? votre délivrance est proche. Donc, dans ce qu'on a lu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Donc, au chapitre 17, quand on a lu, c'était écrit au verset 25. Mais lisons le verset 24, c'est écrit qui quoi ? Verset 24.
Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour.
Jésus annonce un temps où il régnera clairement sur terre avec gloire, avec éclat, où nous aurons la tête haute. Mais il dit, mais avant ça, verset 25.
Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
Ah, c'est notre sort. Jésus explique qu'il y a une gloire visible qui vient pour lui plus tard. Mais avant, il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté par cette génération. Ça ne veut pas dire qu'il soit moins puissant. Il est toujours tout puissant. Mais humainement, socialement, par rapport à la terre, il va traverser la souffrance et le rejet. C'est la vraie Église. Nous ne sommes que le corps du Christ, rappelez-vous quand même. Nous ne sommes pas autre chose que son corps. C'est-à-dire que l'Église répète la vie de Jésus. L'apôtre Paul dit dans un autre passage que je suis en train d'achever les souffrances de Christ en moi. Ça ne veut pas dire que Christ n'a pas fini ses souffrances. Ça veut dire que dans tout chrétien doivent se répéter les souffrances de Christ. C'est le même cheminement. Il dit, le verset qu'on a lu, auparavant, il faut qu'il souffre. Il faut qu'il soit rejeté. Même si nous avons la puissance, même si nous avons l'amour, il est dit, nous serons rejetés. Nous serons mis en difficulté au point que la venue du Seigneur sera notre délivrance. C'est pour nous dire ceci. Nos difficultés ne sont pas synonymes de la faiblesse de notre Dieu. Tenons bon. Ce sont des difficultés prédites. Beaucoup se sont fait piéger par l'évangile de prospérité qui préconise que nous occupions des hauts postes administratifs, que nous devenions des présidents, que nous ayons des stades pour salles de culte, voilà, que nous ayons des chaînes de télévision qui rivalisent avec celles du monde, de la musique qui rivalise avec celle du monde, puisque la musique chrétienne aux États-Unis, elle est cotée dans les hit parades où on cote aussi les musiques du monde. Hein. C'est pareil. Hein. Par exemple, le film qu'avait fait T.D. Jakes, c'était au box-office, hein, 10e, 12e, quelque chose comme ça. Donc, c'est le système. Ils veulent gagner selon le système du monde. Mais ces versets que nous lisons nous disent que selon le système du monde, nous serons en difficulté. Au point que quand Jésus vient, il nous délivre de ces difficultés-là. Nous n'aurons jamais la même popularité que les gens du monde. C'est écrit qu'il faut que nous soyons rejetés. Comment quelqu'un qui est rejeté il peut avoir la popularité ? Bien aimé, dans la vie, il faut choisir. Tu ne peux pas être en même temps pasteur et Michael Jackson. Il faut choisir. Soit tu choisis Jésus avec tout ce que nous lisons, soit tu choisis Satan avec ce qu'il avait promis, proposé à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donne le monde entier. Et c'est ça l'évangile de prospérité. C'est ça l'évangile du bling-bling, de l'apparence, de venez, vous allez vivre les miracles. C'est ça cet évangile-là qui veut rivaliser avec le monde dans le visible. Alors que Jésus dit, le royaume de Dieu vient de manière à ne pas frapper les regards. Et vous voyez dans les églises, tout le monde avec des ambitions de prêcher, d'être pasteur, de faire des choses, d'être une vedette. Les gens refusent d'être inconnus. Et quand ils arrivent quelque part, par exemple, quand j'étais parti une fois dans un pays d'Afrique, alors je viens au culte simplement. Mais les gens voulaient que je dise exactement. Je dis, mais non, mais je suis chrétien, je viens. Comme ils m'ont vu avec une cravate. À cause de la cravate, ils m'ont mis devant déjà. Rien que la cravate. Mais si j'avais dit en plus, je suis pasteur en France, là, ils allaient me mettre près du trône. Mais pourquoi tu ne peux pas laisser que Jésus seul soit glorifié? Il est écrit, Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue, que lui croisse. Ah oui, mais je ne comprends pas. J'ai une belle voix, on ne me laisse pas chanter. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as une belle voix? Si Dieu a besoin de toi, il est tout puissant pour s'imposer. Bien-aimé, n'entrons pas dans ces choses-là. C'est les gens du monde qui courent après la visibilité. Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, tout en étant puissant. Bien-aimé, tout en étant puissant, dernièrement j'étais en retard, je devais prendre mon train à la gare, je descends, je vois un monsieur debout, et un taxi à 10 mètres. Le monsieur, il me dit, vous voulez un taxi? Là, j'ai dit, on m'a envoyé un ange. Le royaume de Dieu est puissant. Voilà, je me disais, c'était vide, il n'y avait rien dans la rue. Le monsieur était tout seul à côté d'une poubelle. Et le taxi était vide. Oh, c'était son taxi. Je descends avec mes valises. Il me regarde, il dit, vous voulez un taxi? Alors je dis, ça c'est le royaume de Dieu. Mais on n'a pas besoin que ça passe à la télé. Nous partageons pour nous fortifier, pour nous consoler. C'est un message de consolation. Notre Dieu est réel. Il est fidèle. Mais nous sommes dans la phase. Il faut auparavant qu'il souffre et qu'il soit rejeté. Nous sommes dans cette phase-là. Il faut accepter le système dans lequel nous avons choisi de fonctionner. Il faut accepter. Jésus lui-même a accepté. Lui qui est roi des rois, fils de Dieu, Dieu. Mais il est descendu en homme. Il a mené une vie d'homme. Philippiens 2 nous décrit tout ça. Jusqu'à mener une vie d'esclave, jusqu'à la mort à la croix. Mais il dit, mais quiconque veut me suivre doit passer par le même chemin, doit porter sa croix et me suivre. Nous sommes gênés. Moi, le premier, quand nous voyons les Jeux Olympiques, vous savez, quand vous êtes au Maroc et qu'il y a match de football en Espagne, vous n'avez pas l'impression d'être dans un pays musulman. Les cafés sont remplis, les cafés deviennent payants. Normalement, tu dois entrer dans un café, payer ta consommation. Mais dès qu'il y a match, le café devient payant. Ils remplissent les cafés. Le foot est plus Dieu dans ce pays-là que l'islam. Moi, ça me fait mal. Je dis, mais comment le foot peut dépasser le nom de Dieu comme ça? Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils connaissent le foot comme ça. Mais Jésus me le répète, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Voilà. Nous devons progresser avec détermination, mais sans chercher à rivaliser avec la visibilité des autres. Mais avec la foi que Dieu veut sauver tous les hommes, avec la foi en la mission que Dieu nous a donnée à l'effet de toutes les nations des disciples, nous allons avec détermination, nous soucions plus de son règne dans nos vies personnelles plutôt que de chercher une apparence de gloire, de star de football dans le service du Seigneur. Nous devons faire un choix. Nous lisons Luc 16, 15. Je voudrais parler aux gens qui ne laissent pas le Seigneur régner dans leur vie. Luc 16, 15.
Luc 16, 15. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. »
Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. les choses qui sont élevées là. Après, il ne faudrait pas dire qu'on a dit que quand quelqu'un regarde le sport, il est allé pêcher. Je ne suis pas en train de dire ça. Parce qu'on peut élever aussi un enfant. Doit-on tuer son enfant? Non, donc je ne suis pas en train de dire ça. Voilà, je suis en train de dire que tout ce que nous voyons élevé et tout ce que nous élevons au-dessus de Dieu, c'est une abomination. C'est une abomination. Les gens qui négligent Dieu et qui sont en train d'encenser le foot, les Jeux olympiques, les vêtements, ceci, cela, mais un jour, ils verront le Seigneur dans sa gloire. Et quand il parlera, ils trembleront. Ils trembleront. Nous chantons un chant qui dit « Quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi, ils verront le Seigneur dans sa gloire. » Et ils verront, il y a un ami un jour qui a fait une vision, il a vu le Seigneur, et il était dans une chambre, il dit, quand j'ai vu le Seigneur, j'ai eu l'impression que l'ampoule de la chambre était éteinte. C'était comme si la lampe de sa chambre était éteinte, vu la gloire du Seigneur. Ces gens-là verront ça, mais ça sera trop tard. Aujourd'hui, à cause des amis, tu ne veux pas venir à Jésus. Mais ce jour-là, tu découvriras qu'un de tes amis, lui, il était disciple de Jésus en cachette. Et ça sera trop tard. Aujourd'hui, à cause de ta famille, à cause du succès sur terre, à cause de tes projets humains, tu négliges le Seigneur. Mais ce jour-là, tu le verras dans les nuées, avec les saints anges, dans la gloire. Ça sera trop tard. Jésus rabaissera tout ce qui est élevé. Et vous savez, si tu as déjà entendu la colère de Dieu, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Ce jour-là, quand il parlera, lui ne se fâchera pas, hein, mais tu sentiras une voix qui parle avec colère. Le jour où il m'avait dit, est-ce que tu as le droit de dire ce que tu dis ? Je raconte souvent mon témoignage de conversion. J'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Alors que je n'allais même pas à l'école, j'ai échoué. Maintenant, j'attribue ça au Seigneur. C'est ça les spécialistes du christianisme. Ils ne suivent pas Dieu. Quand ça ne va pas, ils disent que c'est la faute de Dieu. Puisque quand même, de temps à autre, ils vont à l'église. C'est ce que je pensais. Quand je dis, mais Seigneur, tu m'as abandonné, il y a une voix qui m'a dit, est-ce que tu as le droit de dire ça? La voix ne s'est pas fâchée. Mais moi, j'ai senti la colère dans la voix, sans que la personne se fâche. C'est-à-dire, quand il parlera, la vérité sera tranchante. Elle sera tranchante au point que tu auras l'impression qu'il est fâché. Non, c'est la vérité qui tranche. Dieu, mais Seigneur, il dira, mais oui, je m'étais révélé à toi, mais tu as préféré le succès de ce monde. Mais oui, mais j'ai suivi tel pasteur. Mais oui, mais tu avais aussi la Bible, tu pouvais la lire. Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que lui disait? Non. Tu as préféré être attaché à un homme plutôt qu'à moi. Ce jour-là, la vérité sera tranchante. Bien-aimé, l'heure est grave. Les temps sont proches. Humilions-nous et venons au Seigneur. Nous clôturons avec Apocalypse chapitre 5, où Jésus est présenté dans la gloire, dans le ciel, comment il est adoré. Mais celui-là qui est adoré ainsi a accepté de passer incognito ici sur terre, mais tout en étant connu quand même. Mais il n'a pas manifesté cette gloire-là qu'on va lire. Mais nous lisons ça pour dire aux frères et sœurs qui se sentent parfois délaissés par le Seigneur en disant « Mais où es-tu alors que les Jeux olympiques trônent comme ça ? Où es-tu ?» Alors que des gens comme la fille, la Beyoncé, sont en train d'avoir du succès comme ça. Je me dis, mais c'est pas normal, un humain, avoir un succès comme ça. Même le chant, là, elle ne maîtrise pas comme il faut. Mais c'est les puissances sataniques. Parfois, on a envie que le Seigneur vienne aussi, que nous aussi, on fasse notre équipe. Mais bon, on se dit, bon. Lui dit, attendez, vous allez vivre Apocalypse chapitre 5. Voilà, nous allons lire ça.
chapitre.
Oui, oui.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. » Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
Amen. Ce jour-là, toutes les créatures, aujourd'hui nous nous plaignons, rejetées, aucune popularité, mais ce jour-là, toutes les créatures vont s'agiter pour l'adorer, pour l'élever. Parce que toutes ces créatures reconnaîtront que si elles existent, c'est grâce à l'œuvre de la croix de Jésus, grâce à l'agneau de Dieu qui a affronté la colère de Dieu, qui a subi la colère de Dieu à notre place. Et les gens lui rendront gloire ce jour-là. Tu seras dans la joie ce jour-là de voir ton maître élevé. Aujourd'hui, c'est vrai que tu souffres de voir qu'il est rejeté, mais ce jour-là, tu seras dans la félicité, dans une joie indicible de le voir élevé, glorifié. Et les gens, c'est écrit, tout œil le verra. On a lu ça dans notre texte, tout œil le verra. Même les gens qui l'ont tué, ils le verront. Ils le verront dans la gloire. Et ils se tiendront les mains et diront, mais qu'est-ce que nous avions fait? Et c'est trop tard. Toi qui rejettes, ce jour-là, tu verras. Ça arrivera. Comme c'est arrivé, le déluge est arrivé, il était annoncé, il est arrivé. Ce jour-là aussi arrivera. C'est le moment de se soumettre au Seigneur. Que faire pour les autres, les chrétiens qui sont déstabilisés par l'apparence de l'échec d'être en Christ, puisque le monde semble triompher dans tout? C'est commencer par soi-même. D'abord, que toi-même tu crois en Dieu, que tu acceptes tout ce qui est écrit comme vrai, et en l'acceptant comme vrai, le Saint-Esprit te donnera une ligne pour ta vie. Ça peut être une ligne pour un an, ça peut être une ligne pour 6 mois, mais ne fonctionne pas au hasard. Le Saint-Esprit te conduira. Et quand tu as une pensée pour ce que le Saint-Esprit te donne de fonctionner avec cela, je ne dis pas de créer des doctrines, créer encore des vérités, inventer la roue ou l'eau chaude, non. C'est juste, peut-être, il t'appelle à aller en Chine. Voilà, tu suis cela. Il t'appelle à te soumettre à quelqu'un d'autre. Tu suis cela. Au fait, il faut avoir une ligne et suivre Dieu dans cette ligne-là. Et c'est comme ça qu'on jugera de son action. Mais quand on n'a pas de position, on touche à ça, on touche à gauche, on touche à droite, on ne sait pas vérifier ce que Dieu m'a promis et ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais quand on a une ligne, on peut suivre les choses. Tu suis. Et notre ligne principale, c'est quoi? Aller faire de toutes les nations des disciples. C'est notre ligne principale. Même si nous n'avons pas vu un ange nous donner une vision, même si nous n'avons pas eu une pensée, une vision, nous avons la vision de Matthieu 28, 18 à 20. Tu pries, tu fais de ton corps, de ton esprit, de ton âme, le temple du Saint-Esprit et tu commences par la conquête de ta famille, la conquête de ton voisinage. Dans les prières, même si aujourd'hui tu n'as pas encore le courage de parler, mais la prière n'est pas arrêtée. Tu peux prier même dans ton cœur, si tu as honte de prier à haute voix. La prière, comme a dit le frère André, alors que la Chine était fermée à l'évangile, il a dit, mais ils ont fermé les portes physiques de la Chine, mais la prière transperce toutes les portes. Et ils ont prié. Et c'est comme ça qu'ils avaient fait une campagne de prière pendant 10 ans pour que le mur de Berlin tombe. Il est tombé. Et aujourd'hui, même la Chine est tombée puisque l'évangile est en Chine. Voilà. Tu marche selon les pas du maître. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu consacres ta vie à cela. Nous suivons tous Jésus. Jésus avait une ligne. Bien-aimé, ne vous en faites pas, Jésus était 100% homme. Il a eu 2 moments de tremblement. Dans Jean 12, il a tremblé un peu. Et à Gethsémané, il a tremblé encore. Dans Jean 12, il tremble. Il dit, Seigneur, que ferais-je? Devrons-nous changer le plan? Il a dit, mais je suis venu pour cela. Il avait une ligne, c'était aller jusqu'à la croix. Et vous savez, tu es fils de Dieu, roi des rois, mais les gens t'humilient. C'est comme si tu as bac plus 20 en mathématiques, mais on te dit, ben écoute, cache cela, que les gens ne sachent pas. Et tu es devant des gens qui se trompent, qui disent n'importe quoi avec les X. Et tu es tenté de vouloir un peu dire, non, mais ça se fait comme ça. Mais c'est ce que Jésus voulait faire. Mais comment se fait-il que moi, le roi du roi, le fils de Dieu, je dois me taire devant tant de bêtises dans l'homme ici? Et il a voulu changer les choses, mais il a dit, non. Je suis venu pour être silencieux, pour aller mourir comme l'agneau de Dieu à la croix, afin que tous ces hommes-là soient sauvés. Il s'est gardé. À Gethsémané, il a tremblé encore. Voilà. Nous, ça nous arrive à nous tous. Mais rappelons-nous la ligne de Dieu. Aller faire de toute nation des disciples. La ligne de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les rues. Il faut qu'on ait une ligne. C'est la ligne qui nous aidera. Parce que pendant que les gens vont dire, « Mais pasteur, dans votre église, il y a combien de membres? Tu as honte de dire 15. » Mais quand tu te souviens de la ligne de Dieu, mais non, le but n'est pas avoir du nombre. Le but, c'est de transmettre l'évangile. Eh bien, on est 5. Ah bon? Eh bien, oui. Mais c'est une église toujours. Voilà. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Il y a des gens qui ont honte. Mais quand tu as honte du Seigneur, au fait. Tu as honte du parcours du Seigneur avec toi. C'est cela. Moi, j'avais une de mes hontes, c'était d'aller voir un médecin, quoi. Je me disais, mais attends, s'il apprend que je suis pasteur. Et dernièrement, le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas à moi de défendre son nom. Lui-même, il va défendre son nom. Depuis, je suis libre. Tu n'as qu'à me connaître dans mes faiblesses. Jésus défendra son nom. Il changera les choses. Un jour, il démontrera qu'il est celui qui guérit. Voilà. Parce que je me dis, mais attends, je vais prendre des médicaments, les gens voient ça, c'est quoi ça, Seigneur? Le Seigneur a son jour. Nous n'allons pas forcer les choses. Nous continuons déterminés comme lui. Vous savez, nous avons un chant que nous chantons. Le Fils de l'homme est en chemin, il marche solitaire. Il est déterminé, même seul. Même quand les disciples l'ont abandonné, il fallait qu'il atteigne la croix. Il faut être déterminé. C'est vrai que nous pouvons trembler de temps à autre, mais tu te souviens, mais non. Le Seigneur est vivant. Il a promis, il fera. Je retourne à la prière. Je retourne à l'intercession. Je retourne à la lutte. Ah, mais comment se fait-il qu'il y ait des malheurs dans ma famille? Et les gens vont se moquer, vont dire je prie beaucoup, mais rien ne se fait. C'est pas grave, tu retournes dans la prière. Peut-être tu n'as pas encore atteint le sommet de la montagne, d'où la gloire descendra, mais tu retournes avec ton Dieu, déterminé. Déterminé dans l'évangélisation, déterminé dans la prière, toujours avec les principes du royaume de Dieu, qui ne cherche pas à épater, mais qui est quand même efficace et tout-puissant. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, à être soi-même le royaume de Dieu. Et il est écrit alors dans ce cas-là, des fleuves d'eau vive jailliront de nous. Si on n'a pas encore vécu ça, mais bien aimé, Abraham n'avait pas vécu l'enfant après 20 ans de promesses. Hein. Moïse a cherché à libérer son peuple, il a fait 40 ans avant de venir libérer son peuple. Pourquoi nous voulons du café instantané? Dieu est en train de construire ce qu'il a fait avec, il prépare avec nous. Acceptons cette construction-là. Ne cherchons pas à imiter les autres et souvent qui sont dans le bling-bling satanique. Faisons les choses chacun selon le parcours de Dieu avec lui. Voilà. Quand Abraham n'avait pas d'enfants, il y avait des païens qui avaient des enfants. Mais il a persévéré avec Dieu. Que le Seigneur nous aide, soyons consolés et soyons déterminés à faire son œuvre malgré les apparences de difficultés. Le Seigneur se glorifiera spirituellement aujourd'hui, mais visiblement, il viendra avec les nuées. Notre honte cessera. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, nous voulons être déterminés dans notre marche, te prendre comme exemple. Tu avais ta ligne, comme le frère Paul t'a suivi aussi. Il était emprisonné et les gens se moquaient de lui. Il a dit, l'essentiel c'est que tous ces gens-là parlent de Jésus. Il n'a pas cherché à rivaliser avec les prédicateurs charnels qui se moquaient de lui. Il est resté en prison, croyant que en prison, le royaume de Dieu se faisait, Seigneur, travaillait. Seigneur, que nous ne puissions pas chercher à rivaliser avec quiconque. Que nous suivions notre parcours avec toi, que tu as tracé, Seigneur, dans la simplicité, dans la vérité, dans l'amour et la gloire. Seigneur, merci de nous consoler, de nous aider, de nous donner une patience qui nous permettra d'atteindre ton retour avec les nuées, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.